Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jean, le texte du jour, un des textes du jour, dans l'évangile de Jean au chapitre 12, les versets 20 à 26, c'est ce qui précède le texte que nous lirons dimanche prochain, dimanche des Rameaux, où Jésus s'apprête à entrer à Jérusalem. Quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent « Maître, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent prévenir Jésus. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé en gloire. » « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. À moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il ne reste qu'un simple grain, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, mais celui qui ne tient pas à sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Ainsi, mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honorera la personne qui me sert. » On se demande bien ce que ces fameux Grecs évoqués dans notre texte viennent faire à Jérusalem. On se souvient, c'est vrai, que dans le livre des Actes, on raconte les prémices de l'expansion de l'Évangile parmi les non-juifs. Ce n'est donc pas une idée qui nous choque dans le Nouveau Testament. Nous la rencontrons, mais un peu plus tard, semble-t-il. Ici, ça paraît tout à fait précoce. Au fond, cette idée n'est pas choquante. L'intérêt des autres nations pour l'Évangile est en réalité très fréquente à cette époque. La présence de ces Grecs ne peut s'expliquer que pour des raisons spirituelles, bien sûr, puisqu'ils participent au pèlerinage, ils se joignent à ceux qui veulent adorer Dieu, nous dit notre texte. Ils veulent voir Jésus, sans qu'on puisse savoir exactement leur motivation. Ils ne sont pas dans le premier cercle de l'Église, celui qui peut être qualifié de noyau, voire de noyau dur, si cette expression a un sens, évidemment. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils viennent assister à la Pâque. Ils sont donc dans le cercle, quelque part, un peu périphériques, curieux, intéressés, comme tous ceux qui rejoignent, une bonne partie de ceux qui rejoignent nos églises aujourd'hui. Ils ont vu de la lumière et ils sont entrés. Et voir Jésus, c'est peut-être le petit événement dissimulé dans le grand. C'est le pèlerinage qui les intéresse. Si en plus ils peuvent voir le prédicateur à la mode à ce moment-là, ils font d'une pierre deux coups. Mais d'une pierre deux coups, c'est le deuxième coup qui va être le plus frappant, puisque c'est celle-là de rencontre qui est déterminante, au point de repousser tout le reste au second plan. Jésus les accueille par des propos déroutants, comme une énigme. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Je ne sais pas si c'est cette phrase-là qu'ils étaient venus entendre, mais c'est celle qui arrive dans leurs oreilles au moment où ils se présentent. Tu dois te perdre pour te retrouver, disparaître pour réapparaître sous une autre forme. Or, il se trouve que ces Grecs, ces périphériques, étaient déjà prêts à cela, et c'est pour ça qu'ils sont là. Cette rencontre a lieu parce que la parole qui les accueille a déjà compris ce qu'ils sont en train de faire. Pourtant, malgré la nécessité d'une mort annoncée, Jésus évoque avec les mots de Jean cette mort annoncée, entrée dans sa gloire. Il n'y a aucune tristesse, aucune morbidité dans ce passage. Au contraire, il y a, à travers ces paroles énigmatiques, une promesse de fertilité, quelque chose qui sera comme un gain, une moisson à venir, promesse de fertilité que Jésus adresse à ses voyageurs curieux, multiplication de la vie à l'infini. En faisant cela, il ne fait que leur rappeler la signification première de la Pâque juive. Il faut quitter l'Égypte, là où on est esclave, et puis une fois sorti de cette terre-là, chacun se remet à vivre en plénitude, c'est-à-dire à porter du fruit. C'est ça, la terre promise. C'est beaucoup plus une manière de vivre selon une promesse que l'on tient pour vraie et qui est féconde parce qu'on la tient pour vraie que d'être attaché à un lieu particulier. C'est partout la terre promise, où nos, là où nos églises font leur travail. Jésus annonce ici, tu dois renoncer à vivre par et pour toi-même seulement, parce qu'en continuant à revêtir ces oripeaux, cette espèce d'écorce, tu finiras seul. Tu ne seras pas comme ce grain de blé qui ne veut pas entrer en terre. Le message pourtant simple peut-il trouver chez nous une terre justement suffisamment accueillante pour se développer et porter du fruit? C'est la question que chaque membre d'une église se pose. Eh bien, si on se souvient de la parabole des semeurs, pas forcément. Nous avons du mal à comprendre que l'image utilisée ici par Jésus ne nous promet pas, ou pas seulement, un accroissement, un gain, une quantité supérieure. Et la quantité évoquée par l'expression « du fruit en abondance » nous renvoie plutôt à une qualité, une manière de vivre dans nos églises qui en ouvre les portes, invitées à être autrement et pas simplement à avoir davantage. Le besoin d'avoir nous renvoie toujours à notre peur de manquer, d'où notre collectionnite, nos besoins d'accumuler. Mais cette peur est si bien partagée, si universelle, qu'on la rencontre invariablement dans toutes les parties du monde. Ça tombe bien, si ça n'était pas le cas, nous ne pourrions plus lire cette parabole. Qu'on y vive d'ailleurs en abondance, dans l'abondance plutôt, ou en état de pénurie, elle reste constamment vraie, toujours et partout. Nous avons peur de manquer de quelque chose. Être autrement, c'est aussi un besoin partagé par beaucoup, pas simplement avoir davantage. Mais en réalité, nous privilégions la plupart du temps la question de l'avoir parce que c'est chez nous un réflexe lié, encore une fois, à une peur, une terreur même, de manquer. Eh bien, pas question ici de choisir entre l'être et l'avoir comme si c'était possible. On nous demande plutôt de bien faire la différence entre les deux démarches et mettre autant que possible, le plus souvent possible, d'abord dans notre vie d'église, un surcroît d'être au milieu de notre besoin d'avoir qui, rassurons-nous, ne disparaîtra pas. Jésus parle, en fin de compte, de notre conversion toujours à refaire. Laisse mourir ton vieil homme en le mettant régulièrement en terre, comme pour lui dire adieu jusqu'à la prochaine fois. Ce n'est que comme cela que nous pouvons accéder à une vie démultipliée, parce qu'elle laisse de côté, un moment au moins, les quantités qui règnent sur notre quotidien. Ceux qui comprennent cela ont mis, sans le savoir peut-être, le grain en terre. Le grain de blé, et il le laisse mourir pour vivre au centuple. Et c'est le royaume de Dieu, au moment de la germination, c'est-à-dire le moment où rien ne manque. C'est le règne de la quantité où ce qu'on possède ne suffit jamais, qui prend fin. Là s'installe enfin autre chose. J'ai l'impression que ces pèlerins grecs, périphériques, venus de loin, ont tout de même compris ça. Ils ont fait cette distinction vitale, je crois. Le texte ne nous le dit pas, mais vous savez, on peut toujours un peu brutaliser un texte en lui faisant dire ce qu'on imagine de lui, quitte à s'excuser après en disant « je me suis trompé ». C'est pas grave. Souhaitons-leur, en tout cas, de ne pas avoir fait ce voyage pour rien. On ne fait jamais un pèlerinage pour rien. On ne monte pas au temple rencontrer Dieu pour rien, pour ne repartir qu'avec quelques souvenirs touristiques. Faisons le pari plutôt que leur rencontre avec Jésus, qu'ils n'attendaient pas peut-être, ou pas aussi frappante que cela, a changé leur manière de voir et de vivre. Si c'est le cas, eh bien eux, ils ont quitté l'Égypte sans jamais y avoir mis les pieds. Le règne dans la quantité, ils l'ont quitté aussi au moins un moment. Le monde des échanges, pas toujours équitable, ils l'ont laissé de côté aussi. Ils sont repartis chez eux en se demandant comment vivre au centuple, ce qui est la question que toute église doit se poser, sans avoir ni plus ni moins, sans avoir peur de manquer. S'ils ont repris leur route avec cette promesse, ils sont les premiers à avoir compris ce qu'est la mort et la résurrection, bien avant Pâques et même avant les rameaux. On peut être périphérique et précoce. Quant à nous, si nous mettons le grain de blé en terre pour le laisser mourir, nous saurons aussi ce que signifie mourir et ressusciter, être fécond donc. Après toutes ces semaines du carême qui vont bientôt s'achever, les deux messages de Pâques sont la liberté et une espérance qu'on ne tue pas. On sort d'Égypte et on sort du tombeau. Et c'est pour bientôt. Amen.